Bonsoir week-end.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les grandes voix de ce samedi 10 avril, en débat jusqu'à 19h. On accueille ce soir Laetitia Krupa, journaliste politique. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bienvenue Frédéric. Bonsoir.
Bonsoir Wendy. Bonsoir à tous.
Et Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste de communication politique et président de MCBG Conseil. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Wendy.
Les Gilets jaunes, entre autres, le souhaitaient. Emmanuel Macron l'a fait, supprimer l'ENA. La mort de cette école créée en 1945 permettra-t-elle d'en finir avec la fabrique des technocrates, comme on dit, celle qu'on a montrée du doigt au cœur de cette crise sanitaire ? Artifice ou vrai pari ? Eh bien, on va vous écouter là-dessus, chère grande voix. C'était sur la fin de vie que les militants de la proposition de loi attendaient la parole présidentielle. Elle n'est pas venue et le texte a été balayé, en quelque sorte, cette semaine à l'Assemblée. On va réécouter les arguments des opposants, y compris au sein de La République En Marche, et puis ce que vous avez vu, lu et entendu au cœur de l'actualité.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
L'ENA va donc mourir, Laetitia Krupa, l'Institut du service public. Alors ça, c'est une mesure symbolique, une mesure qu'on pourra retenir au crédit d'Emmanuel Macron, côté peuple, j'allais dire.
Une mesure qu'il avait promis au lendemain de la crise des Gilets jaunes. Donc bien sûr que c'est hautement symbolique à plus d'un titre. Ce n'est pas la disparition de l'ENA en tant que telle, c'est sa réforme, puisque c'est le même système. L'école reste à Strasbourg et continue de fabriquer, de former, de fournir la République
des administrateurs
aux
de l'État.
Fonctionnaires. Voilà. Donc, bien sûr que c'est un coup politique pour Emmanuel Macron parce que c'est un message qu'il envoie au peuple, bien sûr, à ce peuple qui s'est soulevé il y a maintenant 2 ans. Et il dit qu'effectivement, il reconnaît la déconnexion des élites avec le réel, avec le terrain. Et il invite à davantage de connexion, c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires partiront sur le terrain, travailler, n'auront plus ce système de privilèges automatiques quand ils sortent avec ce classement qui vous assurait une carrière vraiment
automatique et presque mécanique. Hein, oui.
Bien sûr. Donc, bien sûr que c'est symbolique, mais c'est aussi reconnaître la lourdeur bureaucratique parce que c'est une petite musique qu'on entend depuis quelques mois maintenant et qui sera au cœur de 2022, de la campagne présidentielle. Cette lourdeur bureaucratique qui plombe l'État, notamment dans sa gestion de la crise sanitaire.
Alors ça, on est tout à fait d'accord, mais taper sur l'ENA en lui reprochant tous les maux du monde et tous les maux technocratiques de la haute fonction publique, c'est pas un peu facile?
Moi, ce qui me frappe, Wendy, en écoutant Laetitia, ça me frappe encore plus, c'est le décalage entre le symbole de cette mesure et le tempo. Ce type de mesure, traditionnellement, en termes de force de frappe, c'est au début d'un quinquennat. C'est Jacques Chirac qui supprime le service militaire.
Oui.
C'est la peine de mort, c'est les 75% de François Hollande. Ça arrive tellement loin dans ce quinquennat que pour moi, ça s'inscrit dans la préparation de la campagne présidentielle, même si à court terme, il y a vraiment peut-être la stratégie de l'entourage d'Emmanuel Macron de réduire la critique en termes de déconnexion. Parce que quand on dit, de manière très très rapide, Emmanuel Macron est perçu comme éloigné des Français. Ce n'est pas la question de l'arrogance. Elle a beaucoup, en fait diminué. Ce n'est pas le président qui est dans sa tour d'ivoire. C'est quelqu'un, on le sait, il va au contact, il n'a pas peur. C'est vraiment, et on voit ça dans nos enquêtes qualitatives à l'IFOP, tu ne connais pas le pays. Vous ne connaissez pas, monsieur le président, la réalité de ce que l'on vit. Et très, très clairement, c'est le coup d'envoi de la prochaine campagne présidentielle avec un pari que la réforme de l'État, après ses dysfonctionnements, après tous ces échecs sur les masques, les tests, la vaccination, même si les choses rentrent dans l'ordre, ça va être un thème central. Et là, ce qui est plutôt bien joué, c'est qu'Emmanuel Macron n'apparaîtra pas comme en défense, comme le président sortant qui défend son bilan. Et on lui dira, c'est pas votre bilan, c'est votre passif, mais en initiative, j'ai posé la première pierre,
oui,
c'est-à-dire la réforme de l'État avec l'ENA.
Alors, c'est comme ça que vous analysez aussi les choses, Philippe Moreau-Chevrolet. Au fond, c'est une bonne stratégie du petit pion qu'on déplace tranquillement pour cette réforme plus globale.
Je pense qu'on est, dans une volonté du chef de l'État d'essayer de retrouver un peu de l'élan de sa première campagne de 2017, d'essayer de redonner un sens à son quinquennat en disant « bon, j'ai bien compris que je m'étais éloigné de mes bases, mais on va revenir vers cette promesse finalement de reconstruction de la politique, cette promesse de sortir du vieux monde, et puis on va essayer de construire du neuf ». Et en plus, il ajoute une brique qui est effectivement, comme le disait Laetitia Krupa, on tire les leçons de la crise actuelle. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la haute administration. C'est aussi une façon de refiler la patate chaude de la mauvaise gestion du Covid à la haute administration.
Oui, c'est un
ce qui
peu
est
facile.
Étonnant, oui, je suis d'accord aussi avec Frédéric, d'avis que le timing interroge parce que, au fond, le gain politique ne pourra pas être très élevé étant donné que ça intervient quand même très tard. Ça intervient en plus à un moment où l'exécutif est en pleine crise. Donc, pour les gens, ça risque d'être un peu un lapin tiré du chapeau, hein. D'ailleurs, il y a un certain nombre de journaux qui ont analysé ça comme ça. Et puis, l'autre chose, c'est que ça risque de braquer la fonction publique à un moment où on aurait quand même besoin que tout le monde aille dans le même sens. Donc, la stratégie de l'exécutif en ce moment, qui est de diviser un petit peu tout ce qui peut diviser, c'est-à-dire tous les champs possibles, l'université avec l'islamo-gauchisme, les écolos avec ce qui est de l'ordre des propositions, un peu, c'est vrai, souvent farfelu à des élus locaux écolos. Enfin, on a le sentiment qu'ils cherchent à diviser le plus possible pour finalement être le plus petit dénominateur commun politique. Ça ne nous arrange pas pour la gestion de crise quand même.
Oui, mais Laetitia Krupa, vous êtes d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, cette école ne ressemblait pas à la société. Alors beaucoup mettent en avant le fait que seuls 1% des élèves de l'ENA sont des enfants d'ouvriers, qu'il y avait ce décalage, cette déconnexion, et donc il fallait s'attaquer de fait à ce symbole, essayer de reconnecter justement les élites avec la base, le terrain, d'où cette expérience de terrain qui sera privilégiée avec cet institut du service public.
Oui, mais alors là, il y a encore une fois, il y a deux étages. C'est-à-dire qu'il faut davantage de mixité sociale et ouvrir le concours, comme on a ouvert le concours de Sciences Po, par exemple, à des univers différents.
En et discrimination vous avez raison, positive. Oui.
À toutes les couches de la société. Mais enfin, est-ce que ce n'est pas un peu l'arlésienne française? Est-ce que ce n'est pas un mirage, cette course à l'égalitarisme? Est-ce que c'est souhaitable? Je n'en sais rien. Honnêtement, hein, je vais être très honnête avec vous. Je crois que l'égalitarisme, justement, conduit au ressentiment qui se répand aujourd'hui dans la société, qu'il faut davantage axer sur la justice sociale, c'est-à-dire qu'il faut juste communiquer davantage dès le lycée, c'est-à-dire que tous les élèves, tous les jeunes de ce pays doivent être au courant de ce qu'est l'ENA, peut-être forcer un peu quelques ambitions, ouvrir cette école, parce que des talents, il y en a partout, mais ça reste quand même l'écurie de l'excellence, donc l'excellence n'est pas à tous les étages et à tous les niveaux. C'est simplement qu'il faut aller les chercher partout, ce qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant. Et ensuite, bien sûr, il faut former ces hauts fonctionnaires avec davantage de connexion au terrain.
Est-ce qu'il faut garder l'excellence pour vous qui professez à Sciences Po, Philippe Moreau-Chevrolet, qui est aussi considéré encore comme une école d'excellence?
Oui, il faut conserver une excellence. De toute façon, quoi qu'il arrive, on la retrouve. C'est-à-dire que même dans les systèmes qui n'ont pas de grandes écoles à la française, qui est un système un peu unique et qui est assez critiqué, même dans ces systèmes-là, on retrouve un système d'école d'élite qui se recrée, d'université d'élite. Si la barrière n'est pas une barrière symbolique, c'est une barrière financière. Si la barrière n'est pas financière, c'est autre chose. Donc, j'ai envie de dire que c'est un peu inévitable, malheureusement. Après, on peut essayer d'aller le plus loin possible dans les critères d'ouverture, permettre aux gens, effectivement, de retrouver un peu cet esprit de la Troisième République, l'ascension sociale par l'instruction, les hussards noirs de la République. Et au fond, l'ENA, quelque part, la promesse à la base, c'était ça. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des générations d'énarques, donc des parents et des enfants. Donc ça, c'est une première distorsion. L'autre distorsion, c'est que ça finit par créer une communauté d'énarques avec des effets de cooptation, des effets de réseau et de solidarité. C'est une autre distorsion. Alors,
pas comme tous les milieux socio-professionnels.
Voilà, exactement. Alors,
c'est pas que la faute de l'ENA.
Des HEC, de toute une série d'écoles.
Non, c'est ça.
C'est le fait des grandes écoles.
Soit, si on déclare que c'est qu'il faut de temps en temps remettre les compteurs à zéro, tout détruire pour venir à bout de ces effets-là, peut-être qu'il faut le faire. Mais dans ce cas, la réforme proposée par Emmanuel Macron sera insuffisante parce que c'est au plus un coup de peinture qu'autre chose. Donc la question, c'est une question qui est aussi vieille que l'éducation, finalement.
Oui, mais nous, dans nos enquêtes, quand on demande pourquoi les Français sont mécontents de la situation actuelle, bon, ils citent parfois l'ENA, ils citent parfois la haute fonction publique, l'administration, au sens large du terme. On se souvient du sketch de Coluche sur les technocrates, la nouvelle race de feignants, c'était peut-être ici, dans ce studio, Wendy. Mmh. Mais ils mettent en avant la responsabilité du politique. En France, c'est le politique qui décide, c'est le politique qui impulse. on voit des sympathisants de droite qui disent « Ah, si c'était Nicolas Sarkozy, pendant cette crise, il aurait emmené du mouvement, il aurait en fait, apporté, il aurait fait bouger cette fourmilière. » Donc c'est quand même le politique qui est responsable.
C'est ce
donc on est peut-être
dire.
Sur une mesure qui ne va pas toucher sa cible et qui va, comme le disait tout à l'heure Philippe Moreau Chevrolet, apporter des bénéfices relativement limités, voire inexistants pour le président.
Et pour rebondir sur ce que vous dites, il est difficilement concevable d'imaginer que l'administration décide au-delà de ce que pourrait souhaiter le président et qu'il soit lui-même bloqué à entraver. Oui. Emmanuel Macron, il a suffisamment dit, notamment au cœur de cette pandémie, par cette technocratie imbougeable, inamovible.
Oui, non, mais bien sûr, mais de toute façon, là, il joue 2022, enfin, il est dans le storytelling, il est reconfectionne son histoire, son roman national qu'il nous avait promis en 2017,
voilà,
qui est très abîmé.
Les promesses de 2017.
Je ne sais pas qui a compris quel était le roman d'Emmanuel Macron, mais pour le moment, je crois que c'est encore flou. Il faut qu'il se dépêche et bien sûr que c'est encore une fois très symbolique, c'est un coup politique et je trouve que c'est plutôt réussi pour encore une fois son histoire à lui. Voilà,
hein. Voilà, en perspective de 2022. Suppression de l'ENA, démagogie indigne. Voilà ce que dit Marion Maréchal. Marine Le Pen dénonce, elle, de la communication et c'est de la présidente du Rassemblement National, présidente pour le moment, dont vous vouliez nous parler, Frédéric Dabi, parce qu'officiellement, ça y est, elle est candidate à l'élection de 2022. Elle l'a annoncé hier, c'est passé un petit peu inaperçu, mais c'était pas vraiment une surprise.
Oui, elle l'avait déjà dit, Wendy, il y a quelques mois, mais je me suis plus intéressé à ce qu'elle a dit à deux reprises. Oui. Hier, c'était une vidéo pour Valeurs Actuelles. Elle l'a dit également il y a une quinzaine de jours. Elle a annoncé son départ de la présidence du Rassemblement National et elle serait remplacée sans doute à la fin de l'été par Jordan Bardella. Alors, c'est une étape supplémentaire pour crédibiliser sa candidature, mais l'intention est claire. Il s'agit bien sûr de tirer des bénéfices symboliques de ce départ. D'abord, se descotcher de la marque RN, de la marque FN, s'affranchir de son organisation partisane. Surtout, il s'agit de s'inscrire dans une tradition, dans une geste présidentielle, apparaître comme une femme libre, la candidate de tous les Français, indépendante de tout mouvement, pour entamer cette rencontre, ce dialogue avec le pays. Il n'y a rien de nouveau. On se souvient de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, qui voulait regarder la France au fond des yeux et écouter son message. Et tout ça, l'idée, c'est de banaliser le vote Marine Le Pen. Hier, dans cette interview, elle a parlé de sa passion pour les chats, elle a parlé de sa foi, elle a parlé de ses enfants. C'est vraiment... Elle avait déjà fait ça en 2011, 2012. Sur... Voilà, je suis d'abord une femme divorcée, une femme qui a des enfants. Mais voilà, l'idée de se descotcher de la marque RN, pour moi, c'est un vrai faux événement. D'abord, beaucoup de prétendants à la magistrature suprême l'ont fait. François Mitterrand, en 81, qui va donner les clés du PS à Lionel Jospin. Ça restait le patron.
Oui.
Jacques Chirac, en 95. Et Marine Le Pen, déjà, on oublie tous, on est tous focalisés sur le débat catastrophique d'entre deux tours, mais elle l'avait fait juste à la veille du second tour. Elle s'était mise en congé de la présidence du parti. Et là, je fais référence à l'enquête IFOP il y a une huitaine de jours dans le JDD. Est-ce que l'étiquette Rassemblement National est une gêne ou un problème pour Marine Le Pen? Puisque quand on voit cette enquête où nous avons interrogé 1000 personnes qui ont voté au moins une fois au cours des 5 dernières années pour le Rassemblement National, les résultats montrent que le Rassemblement National va un peu mieux que Marine Le Pen.
C'est ça.
Il a des gains d'image, il s'est plutôt crédibilisé. On a presque un Français sur deux qui considère qu'il peut exercer le pouvoir, qu'il a une vision pour l'avenir. C'est 45%. Ça fait quand même beaucoup de monde. Alors qu'en revanche, Marine Le Pen reste assez affaiblie. À peine un Français sur quatre pronostique sa victoire à l'élection présidentielle. C'est un décalage avec tout un buzz politico-médiatique sur sa victoire peut-être jugée inéluctable. Et puis, plus que jamais, cet acte lourd du débat d'entre deux tours reste dans les mémoires des Français. Elle n'est que pour 16% jugée comme plus compétente, plus honnête, plus sincère, ayant davantage la stature présidentielle que les autres candidats. Il y a encore du chemin à faire.
Donc c'est intéressant de ne pas trop s'éloigner de son étiquette RN, si elle veut garder quand même une identité malgré tout. Au lendemain de la merci Frédéric Dabi, de la disparition du prince consort, le prince Philippe, on a appris donc les obsèques auraient lieu samedi prochain au château de Windsor. On en reparlera à 19h15 de sa francophilie, de son côté défenseur de l'environnement. Avant de vous laisser la parole, Laetitia Krupa, sur ce sujet, je voudrais qu'on réécoute avec plaisir. Il est en calèche avec Léon Zitrone dans les années 70. Le prince expliquait la manière dont il comprend son équipage de chevaux.
Comment les chevaux comprennent-ils ce que vous voulez?
C'est une combinaison de voix, de rênes, de circonstances, avec
le fouet,
un peu de tout. Mais le voit plutôt, parce qu'il comprend ça.
Et comment comprenez-vous, vous, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas?
On doit être un peu psychologue. On doit faire une analyse de chaque cheval tout le temps, un après l'autre, et penser qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense. Il y a quelque chose là qu'il n'aime pas, et celui-là aime mieux ça, il veut tourner ici, et l'autre veut faire ça. Alors on doit analyser les pensées de chaque cheval tout le temps.
Voilà, c'est un extrait de Lina qui nous rappelle combien le prince aimait le sport, aimait le cheval, aimait la France et aimait parler français.
Ah oui.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ce qui a été dit, vu, lu, entendu depuis hier, Laetitia Krupa, sur ce sujet ?
Je ne sais pas si cette séquence était dans la série The Crown. Et je peux vous dire que depuis 24 heures, hein, depuis l'annonce de la mort du prince consort Philippe, je pense que tout... les médias ont cité cette série de Netflix. Et ça m'a vraiment interpellée. Je me suis dit, c'est peut-être la première fois que l'imprégnation de la fiction sur le réel est aussi flagrante. Et je me suis dit, pourquoi le récit médiatique se sert de cette série comme support? J'y vois deux raisons. Déjà, la série a contribué à remettre le prince qui avait l'habitude... toute sa vie d'être derrière, à trois pas, dit-on, derrière la reine. La série l'a remis finalement au premier plan. Et Philippe a gagné une notoriété nouvelle. Et vous savez bien comment fonctionnent les médias. Le référentiel, finalement, de la série sert à agréger plus de monde. C'est une valeur refuge, hein, un peu dans l'imaginaire collectif de l'histoire de la couronne britannique, en clair. Philippe génère de l'audience. Mais il y a aussi une deuxième raison. Finalement, c'est aussi une volonté de démêler le vrai du faux. Parce que depuis que cette série The Crown est diffusée, tous les spécialistes s'écharpent sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, quelle est la part de la fiction,
par exemple,
de la réalité. Voilà, l'infidélité de Philippe, qui a fait les choux gras des tabloïds, hein, mais qui n'a jamais été vraiment prouvé, on va dire. C'est vrai qu'il est au cœur de cette série. Et c'est ce que je trouve intéressant, en fait, c'est le triomphe de la fiction. Ça pointe, si vous voulez, notre tendance actuelle à un peu mélanger les genres. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. On met au même rang le récit historique et le récit fictionnel. Et finalement, c'est un des dangers de notre siècle, car si la fiction l'emporte un jour sur la réalité, la fin ne sera peut-être pas heureuse.
Oui, mais en tout cas, c'est intéressant de nous montrer comment The Crown alimente aussi notre culture générale. C'était vraiment flagrant, comme vous l'avez dit, Laetitia Krupa, au cœur de ce sujet. Cher Philippe Moreau-Chevrolet, à vous, c'est un livre que vous avez lu et que vous souhaiteriez recommander aux auditeurs ce soir.
Oui, alors c'est un livre très intelligent qui est fait par un jeune communicant qui s'appelle Raphaël Yorca, qui est aussi docteur en philosophie du langage. Alors, il ne faut pas que ça effraie, hein. C'est un livre qui est sur le macronisme, en fait. Ça s'appelle Macron, la marque Macron ou la désillusion du neutre. Et ça explique pourquoi on a été séduit, enfin pourquoi en tout cas une majorité d'électeurs ont pu être séduits par Emmanuel Macron, parce que ça se présentait au fond comme quelque chose de neutre. C'était la neutralité idéologique, c'était ni la droite, ni la gauche, c'était la neutralité même du clivage politique, puisque Macron disait souvent à ses adversaires, je suis d'accord avec vous, hein, c'est quelque chose qu'il utilisait très souvent. On se souvient de la rencontre entre Mélenchon et Macron à Marseille, fortuite, où même Mélenchon avait du mal finalement à s'opposer à Macron. C'était cette séduction au fond d'une neutralité dans laquelle on allait pouvoir travailler justement. On allait pouvoir reconstruire le pays parce qu'on était tous au coude à coude et c'est l'entrepreneur politique qui l'emportait. Et ce qui est intéressant, c'est que Raphaël Yorca explique qu'avec la crise, on s'est rendu compte qu'au fond, l'entrepreneuriat politique, ça ne fonctionnait pas, qu'au fond, la promesse n'était pas au rendez-vous. Et il explique que le neutre se transforme petit à petit en neutralisation, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un refus même de la critique, un refus que le journalisme travaille, c'est-à-dire que les journalistes viennent poser des questions, un refus de rendre des comptes, une crispation qui fait qu'on va traiter l'épidémie dans un conseil secret défense.
Oui.
Et cette neutralisation finit, il le dit, Raphaël Yorca, par se retourner contre Emmanuel Macron parce que ça finit par tuer le politique. Et ça fait pas, quelque part, ça ouvre la voie à des gens qui vont refuser ça, comme Marine Le Pen, et à un retour du clivage extrêmement violent, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes. C'est passionnant, ce livre. Enfin, moi, je pense pas que ça explique tout le macronisme. Il faut pas n'y a jamais de livre qui explique tout, mais c'est un angle qui n'avait pas été exploré. Et je trouve que c'est particulièrement malin et particulièrement intelligent de la part de ce jeune communicant d'avoir analysé ça comme ça.
La marque Macron, Raphaël Yorka, que vous avez lu,
oui,
ou vous connaissez ce jeune homme.
À le lire, je partage complètement l'enthousiasme de Philippe. Effectivement, ce n'était pas un livre comme les autres, ce n'est pas un livre en fait, politique de plus sur le quinquennat et sur Emmanuel Macron. Cette idée de travailler sur la marque, et ce n'est pas du marketing politique, c'est cette marque avec quelle valeur, quel récit, quelle scénographie macronisme. Et Philippe l'a très bien dit, c'est très intéressant cette idée du neutre qui a complètement imprégné la campagne Emmanuel Macron. Philippe a donné quelques exemples. Il n'y a aussi pas la moindre proposition clivante. Puis vous vous rappelez, Wendy, des débats avant le premier tour, quand Emmanuel Macron disait à peu près à tous les autres adversaires « Je suis d'accord avec vous, vous avez raison », ce qui avait fini par agacer une partie des candidats. Et surtout, alors j'ai lu des extraits du livre, il montre bien, Raphaël Yorka, comment ce neutre, comment ce récit, cette marque, s'est beaucoup abîmé et démonétisé pendant le quinquennat, au moment des Gilets jaunes, et là, avec cette crise sanitaire, où on est passé d'un narratif d'un président compétent, efficace, et d'ailleurs, le « en même temps », c'était l'idée d'efficacité. On prend le meilleur à gauche et à droite, à une certaine impuissance, aux défaillances de l'État, et puis cette phrase terrible, le maître des horloges, c'est le virus.
Oui,
c'est une rupture totale avec 2017.
Oui, très intéressant. Bah, merci. Voilà, double coup de cœur ce soir pour ce livre.
Oui, c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Et moi, je me dis toujours, bon, ça, c'est une analyse, c'est un point de vue. Vous avez raison, Philippe. C'est un angle qui était complètement original pour analyser le quinquennat Macron. Mais est-ce que Emmanuel Macron lui-même l'a pensé comme ça, son quinquennat? En fait, moi, ce qui m'intéresse en tant que journaliste, mais parce que c'est mon métier, c'est de savoir comment lui a théorisé son quinquennat, comment lui avait imaginé ce quinquennat. Et ça, peut-être que nous ne le saurons jamais, parce que pour l'instant, il se tient quand même très loin des journalistes et des médias. Ça, pour le coup, il est resté fidèle.
Moins longtemps, quand même. Comment s'en voir un peu plus.
Ouais. je trouve que quand même, c'est très frileux comme relation. Alors, est-ce qu'un jour, il dira lui-même ce qu'il avait voulu faire en 2017? On saura peut-être pas.
Bon, il est 18h56, on ne va pas faire comme à l'Assemblée, on ne va pas consacrer 3 minutes de temps de parole à la fin de vie, donc on en parlera demain tranquillement, parce que c'est un sujet essentiel, et on verra ce qui s'est joué justement jeudi en niche parlementaire. Mais je voudrais vous faire réagir, parce qu'on l'avait évoqué déjà le week-end dernier, les rumeurs autour de la présence de ministres, de politiques, à ces fameux dîners clandestins. On a quand même des aveux ce soir qui viennent d'arriver. Révélation de Mediapart et confirmation de l'ancien ministre Brice Hortefeux, du chroniqueur de BFM Alain Duhamel, grand journaliste politique par ailleurs, qui reconnaissent avoir déjeuné dans un appartement privé reconverti en restaurant clandestin. Alors, on n'a pas toutes les explications, mais en gros, Brice Hortefeux devait déjeuner avec Alain Duhamel. Il y avait cette idée de déjeuner dans un appartement, dans le 8e. Il ne savait pas vraiment, après ce qu'ils disent, que c'était un restaurant clandestin. Mais voilà, deux noms confirmés, deux noms qui tombent. Ce ne sont pas des ministres en exercice, mais ça commence.
Oui, mais rappelez-vous le hashtag sur Twitter.
On
sait que Twitter, c'est une niche, que nous sommes captifs de cette niche, mais que franchement, 95% des Français ne regardent pas ce réseau social. Enfin, il reste qu'il y avait un hashtag qui était né, qui était « on veut des noms ». Voilà. Il ne faut pas que ça se transforme en chasse aux sorcières. Après, quand on...
Ça, c'est la spécialité de Twitter.
Bien sûr, mais quand on transgresse des règles qui sont faites pour tous, et donc c'est une règle, c'est interdit d'aller déjeuner ou de dîner dans un restaurant clandestin, on en subit les conséquences. Enfin, c'est aussi bête que cela. Et quand on est connu, bien sûr qu'on déclenche des foudres qui sont 1000 fois plus importantes que le quidam. Voilà, c'est un fait. Que les médias embrayent dessus depuis une semaine, c'est quand même une responsabilité qu'il faut regarder de près, parce que est-ce que oui ou non, ça mérite la une? Ça fait quand même une semaine, Wendy, qu'on est en boucle. Je ne crois pas.
Ok, on a juste parlé 30 secondes, mais vous avez raison sur ce point. Philippe Moron-Chorollet, pour terminer, Brice Hortefeux dit à Mediapart que tout paraissait légal pour lui, mais il reconnaît avoir déjeuné dans cet restaurant clandestin, de fait. Qu'en dites-vous ?
Alors oui, et puis il y a une réponse simple que lui fera tout avocat et tout juge, c'est nul n'est censé ignorer la loi, et donc enfreindre la loi, même par accident, ça reste une infraction. Ensuite, il y a une explication que le philosophe Frédéric Worms donne de ça. Il dit « quand on traverse une épreuve comme ça, on a envie d'être tous dans le même bateau ». Il y a une vraie volonté d'égalité, parce que c'est insupportable de souffrir si on ne souffre pas tous ensemble dans ce type de crise.
Merci.
Et ça vient précisément poser le doigt là-dessus.
Philippe Moreau-Chevrolet, Frédéric Dabi, Laetitia Krupa, c'est le trio que vous retrouvez demain pour les grandes voix du dimanche. Merci à tous les trois.
Wendy Bouchard, les grandes voix.